France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et soyez les bienvenus sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, peut-être un tournant dans les pratiques policières en France. Le gouvernement a annoncé hier une série de mesures face à la colère provoquée par plusieurs cas de violence et de racisme. Réaction dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
L'émotion et le recueillement à Houston à quelques heures des obsèques de George Floyd. L'appel à l'aide des salariés des centres logistiques de Vivarté, sans offre de reprise pour l'instant. Le détail du protocole sanitaire des colos de l'été. Et puis quand l'opéra se déconfine au pied des cités d'Aix-en-Provence.
Nos invités, les invités d'Inter ce matin à 7h50, ma chère Léa.
Icône de la communauté afro-américaine depuis ses premiers films, il reviendra avec nous sur la mobilisation aux États-Unis après la mort de George Floyd. Le génial Spike Lee sera là à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons ensemble dans le grand entretien de la matinale le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien Abad, qui dialoguera avec vous, répondra à toutes vos questions. Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter. Une tolérance zéro contre le racisme et la fin de méthodes dangereuses d'interpellation. C'est donc ce qu'a annoncé hier en fin de journée le ministre de l'Intérieur, qui a admis l'existence au sein de la police de brebis galeuses aux déviances infectes. Une mission sur les techniques d'interpellation avait été créée après l'émoi suscité par la moque de Cédric Chouviat en janvier dernier à Paris. L'homme avait subi une clé d'étranglement puis un plaquage ventral. Ces annonces sont un premier pas, estime sa veuve Doria Chouviat.
Il ne faut pas cracher sur la soupe, c'est quand même un soulagement, c'est une belle avancée, mais bon, c'est pas fini. Le déni, le mépris, ça ne fait pas avancer les choses, c'est contre-productif. Donc, il m'a l'air sincère, il a l'air d'avoir pris conscience du danger de ces prises qui étaient utilisées un peu à tort et à travers et difficilement maîtrisables, très dangereuses. Donc, c'était vraiment une priorité et ma famille, enfin les miens, mes amis, tous les gens qui m'entourent, même si on a dû en payer le prix, enfin pas que nous, parce qu'il y a d'autres familles malheureusement aussi qui ont fait les frais de cette prise, écoutez, nous c'est déjà un bon début et on espère qu'il en fera autant pour le plaquage ventral et surtout qu'il tardera pas à se prononcer également sur la suspension des 4 policiers, parce que je vous avoue que c'est très frustrant pour nous.
Les syndicats de police, eux, justement, font part de leur scepticisme. Il n'existe pas d'alternative à certaines pratiques, estime David-Olivier Reverdy, il est secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance.
C'est la seule qui nous permet, sans utiliser d'armes létales, de bloquer un individu violent, bien souvent en prise à l'alcool ou à de la drogue, qui refuse d'obtempérer pour le protéger lui et nous-mêmes par la suite, parce qu'il n'y a pas de contact. Normalement, c'est des étranglements arrière et ça nous permet de descendre l'individu au sol tranquillement, le tourner et de le menotter pour après le remettre debout. C'est la question aussi que l'on pose au ministre. Quelle alternative nous propose-t-il ? L'usage de notre pistolet ? L'usage du taser ? Il ne me semble pas. Il n'y a aucune autre technique, mis à part le corps à corps et avec les dégâts que ça peut causer chez nos collègues, mais également chez la personne que l'on souhaite interpeller. Non, la technique de l'étranglement est somme toute la seule qui nous permette de nous protéger et de protéger l'individu.
Un propos recueilli par Ariane Grissel. Si le chef de l'État reste pour l'instant silencieux, après le ministre de l'Intérieur hier, c'est le Premier ministre qui monte au créneau aujourd'hui. Édouard Philippe est attendu dès 9h30 au commissariat d'Evry, dans l'Essonne, le fief de l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre Manuel Valls, là où la gauche, Yael Gauz, a opéré sa conversion aux questions de sécurité.
Evry comme décor à la toute première réaction du Premier ministre au malaise mondial qui s'exprime depuis une semaine. Une ville dont Manuel Valls, aujourd'hui retiré dans sa Catalogne natale, a été le député-maire pendant plus de 10 ans avant d'entrer au gouvernement. Un choix qui ne doit rien au hasard, explique son successeur, le député apparenté En Marche, Francis Choix.
La première décision qu'il a prise, c'était de faire de la sécurité la première des libertés. Et la toute première décision, ça a été de constituer une véritable police municipale forte. On a formé des policiers municipaux à la laïcité. La laïcité, c'est pas spontané, c'est une lutte permanente. Il faut former à la République.
Le message déontologique de de Christophe Castaner reçu 5 sur 5. Maintenant, Francis Choix insiste pour qu'Édouard Philippe réaffirme son soutien plein et entier aux forces de l'ordre.
Mais attention à ne pas les désavouer en laissant penser qu'elles se comportent pire que ce qu'elles ont à combattre. Les trafics, en ce moment, ce sont les tirs de mortier, ce sont les rodéos, parce que c'est ça qui finirait par justifier que la police se retire.
Même depuis l'Espagne, Manuel Valls suit cette affaire de près. Il faut tenir un discours clair, sans céder à l'émotion, nous a confié l'ancien Premier ministre. Au gouvernement, on a parfaitement conscience de marcher sur un fil. Confidence d'un ministre, pendant les Gilets jaunes, sans la police, je ne sais pas ce que le pays serait devenu.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a elle proposé de recevoir la famille d'Adama Traoré, qui a refusé. Nous attendons des avancées judiciaires et non des invitations à discuter. De nouvelles manifestations contre les violences policières et en hommage à George Floyd sont prévues ce soir en France, notamment à Paris, place de la République, à partir de 18h. Au moment où débuteront à Houston les obsèques de George Floyd, depuis hier, des milliers de personnes se pressent pour rendre hommage à celui qui a été tué par un policier blanc à Minneapolis. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Houston, Grégory Phillips.
Recueilli, silencieux, ils sont entre 6 et 7 000 à avoir patienté sous un soleil de plomb avant de pénétrer dans l'église Fountain of Praise.
No videos, no pictures.
Coronavirus oblige, ils le font avec un masque sur le visage et une prise de température sur le front avant d'entrer. À l'intérieur, le cercueil doré et ouvert de George Floyd. Son visage paraît serein, chacun a quelques secondes, puis doit laisser la place. Patricia est venue avec sa fille de 12 ans, Jayana. Je suis triste, bien sûr, dit la mère de famille. Mais en même temps, je trouve que le mouvement né de la mort de cet homme est formidable. Maintenant, nous devons avoir un changement. Cela suffit.
Enough is enough.
La jeune fille complète les propos de sa mère. Elle n'a que 12 ans, mais elle raconte.
I don't think it's fair.
C'est tellement injuste. Vous sortez dehors. Vous pouvez être arrêté et accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. J'ai peur parce que j'ai deux grands frères, ils ont 20 et 23 ans. Quand ils sont dans la rue, quand ils conduisent, on ne sait jamais ce qui peut leur arriver, s'ils sont interpellés par la police ou autre chose. C'est dans la même église qu'aura lieu tout à l'heure l'office pour George Floyd, avec seulement 500 personnes à l'intérieur, pour raisons sanitaires. Puis sa dépouille traversera une partie de la ville sur une calèche à cheval et escortée par les motards de la police de Houston pour aller jusqu'au cimetière où il sera inhumé aux côtés de sa mère. Houston, Grégory Phillips, France Inter.
Quant à Derek Chauvin, le policier blanc inculpé de meurtre non prémédité, il a comparu brièvement hier devant la justice en tenue orange de prisonnier. Sa caution libératoire a été fixée à 1 million de dollars.
Il est 7h07, Agnès, l'emploi priorité affichée du gouvernement.
Avec une concertation éclair qui débute aujourd'hui et qui doit durer une semaine, il sera question d'assurance chômage, d'emploi des jeunes, de formation, de travail détaché et de chômage partiel de longue durée. Muriel Pénicaud commence à recevoir aujourd'hui responsables patronaux et syndicaux. Eux sont inquiets pour leur avenir. Les quelques 500 salariés des deux centres de logistique du groupe Vivarte, placés en redressement judiciaire, si des offres ont été déposées pour la reprise des magasins Lahal et de leurs salariés, personne ne semble se soucier des salariés d'Issoudun et de Châteauroux où s'est rendu Maxime Debs. Reportage.
C'est mort, lâche en premier sur le parking en face du dépôt une salariée à la fin de son service.
Miracle, ça existe toujours, mais en tant qu'on n'y croit plus, nous.
Françoise, arrivée il y a 25 ans à la Halle, n'a guère plus d'espoir.
Franchement, non. Non. On a fait au rond-point, on a mis des croix, tout ça, pour se faire entendre, quoi. On sait que c'est perdu, mais qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent à notre rencontre, ces gens-là.
Ces gens-là, entendaient les dirigeants, les actionnaires qui n'espèrent que récupérer leur argent pour les salariés en se débarrassant d'eux, en se séparant des murs. Et tout ça sans aucun état d'âme dans une région où l'emploi n'est déjà pas facile à trouver, encore moins dans la période. Christiane s'attend au pire.
Ça va évoluer sur des drames. Il y en a qui se sentent vraiment rejetés et qui se disent on ne retrouvera rien et on n'aura rien. Et là, ça va péter.
Béatrice, plus de 20 ans au centre logistique, prévient elle qu'elle ne se laissera pas faire.
Il va falloir qu'ils lâchent, qu'ils ne gardent pas tout pour eux. Sinon, on va prendre le dépôt en otage. La marchandise ne sortira pas du dépôt. Hein, parce que dans le dépôt, je ne sais pas, ça représente combien, 75 millions d'euros. La marchandise, eh ben, c'est nous qui l'avons. Nous, on ne lâchera pas.
Contacter la direction disait hier soir encore de son côté être pleinement occupé à tenter de trouver un repreneur pour le site. S'il existe, celui-ci n'a donc plus que quelques heures pour se faire connaître.
Les offres doivent en effet être déposées avant ce soir minuit. Reportage de Maxime Debs. L'OMS continue de dire son inquiétude face à la pandémie de Covid-19 dans le monde. La situation est toujours alarmante en Amérique latine et dans le sud de l'Asie. De nouveaux cas sont également signalés en Grèce à une semaine du début de la saison touristique. En France, 54 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés et le nombre de malades en réanimation continue de baisser. 1024 malades étaient dans un état grave hier soir. Cette amélioration a poussé le gouvernement à assouplir les conditions sanitaires pour l'accueil des enfants en colonie. Les 12 000 structures organisatrices de séjour ont reçu hier le protocole définitif. Le détail avec Claire Chaudière.
Exit d'abord le port du masque obligatoire 100% du temps pour les adultes encadrants, ce qui posait des questions de sécurité affective pour les enfants. Quant aux lits superposés, ils ne sont plus totalement bannis, ce qui aurait divisé de fait par deux les effectifs dans de nombreux scolos. En revanche, le nettoyage total des locaux deux fois par jour et surtout la distanciation sociale pour les enfants tout au long des séjours reste d'actualité. Certaines colonies de vacances sportives notamment devront être repensées ou annulé. Un moindre mal, une saison peut-être encore sauvable in extremis, estiment les plus grosses structures organisatrices. Une catastrophe au contraire pour les plus petites associations qui craignent de ne pas se relever d'un été à perte. Réponse du gouvernement, le financement par l'État de 250 000 places pour envoyer cet été notamment les enfants de quartiers prioritaires dans des colonies apprenantes constitue un soutien majeur pour le secteur.
Et en attendant cette partir en colo, oui, mais où, si possible, proximité d'une plage propre, la carte des pavillons bleus est publiée aujourd'hui. Le label environnemental et touristique est décerné à plus de 401 plages et 106 ports de plaisance répartis sur 188 communes. Sandy Dauphin.
Une quinzaine de nouveaux sites pourront hisser le pavillon bleu cet été, notamment des villes de l'intérieur. Thierry Le Révérend, directeur général de l'association Terre Agir, qui décerne cet écolabel.
Par exemple, Aubusson d'Auvergne, en Auvergne, Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, le port de Colmar, dans le Haut-Rhin.
Globalement, la qualité des eaux de baignade s'améliore en France, mais ce n'est pas le seul critère d'attribution. Le label Pavillon Bleu récompense aussi la gestion des déchets ou encore des projets verts innovants, comme à Seignos, dans les Landes.
Une démarche originale, puisqu'elle a fait une collecte des sapins de Noël qui ont tous été broyés et récupérés pour consolider les dunes, qui, comme vous le savez, en fait, est l'objet d'une érosion très très forte. Donc, circuit court et initiative tout à fait locale et intéressante.
Mais les innovations ont un coût. La crise Covid suscite aussi l'inquiétude sur l'avenir des investissements verts des collectivités locales.
Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si avec la crise économique, hein, il n'y a pas des prudences sur les investissements pour avoir une eau de bonne qualité. S'il y a un mauvais assainissement en aval, il y aura une mauvaise qualité de l'eau de baignade.
D'autant qu'il y a eu un gros manque à gagner touristique en mai. Certaines communes ont commencé la saison estivale avec des plages pavillons bleus fermées pour cause de Covid.
Et en attendant la carte des pavillons bleus, retrouvée sur franceinter.fr, la carte des eaux les plus pures en Europe. Enfin, quand l'opéra déconfiné part à la rencontre des habitants des cités, privés de spectacles, les chanteurs de l'Opéra de Marseille et du Grand Théâtre de Provence se produisent tous les lundis soirs au pied des cités d'Aix-en-Provence. Mathilde Vinceneux a assisté hier soir à la première.
La scène est installée sur une petite place au milieu des bars HLM. Michael supervise, il est le fondateur du CALMS, le collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité.
C'est minimaliste, c'est un piano numérique qu'ils sont en train d'installer. Et puis ensuite, après, les chanteurs prennent l'espace, prennent la rue, quoi.
Les chanteurs, ils sont deux, Jennifer Michel qui s'échauffe et son mari, Juan Antonio Noguera. Pour eux, être là, dehors, loin des grandes salles sonorisées, c'est un défi technique, mais aussi un très grand plaisir.
Le fait qu'il y ait des enfants qui jouent autour, ça fait du bien, hein, ces temps compliqués, parce qu'on a quand même passé longtemps enfermés à la maison.
2 mois et demi de confinement, pas sortir, pas voir les publics, les amis.
La vie s'est arrêtée, donc oui, le public nous a manqué. Ouais.
Et dès les premières notes, la magie opère, les fenêtres s'ouvrent, les yeux s'écarquillent.
C'est bien comme on les entend, sans micro.
C'est très bizarre, ouais, ça pousse.
C'est vrai qu'on n'a pas, nous, jeunes de banlieue, jeunes de cité, l'ouverture sur ça. Là, c'est beau, c'est... On a un théâtre en pleine plein milieu de la cité.
Un spectacle qui va continuer gratuitement ici jusqu'à la fin de l'été. Aix-en-Provence, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Et merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.